Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonjour Raveli, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. On va, comme chaque semaine, survoler notre paracha, le passage que nous lisons dans nos communautés chaque semaine. Et là, on arrive au passage qui s'appelle Korach. Korach, j'ai envie de vous faire un bon mot de journaliste. Pour nous, Korach, c'est les hommes politiques. C'est ceux qui discutent sur tout, etc. Alors qu'on ne fait pas toujours vraiment confiance, pour être honnête. Et voilà, c'est les hommes politiques. Mais vous... évidemment, vous n'êtes pas, c'est pas un bon mot de journaliste. Alors, votre dracha de ce soir va porter sur comment Korach s'y prend pour convaincre les uns et les autres que Moshe Rabbeinu a tort. Alors, et quel enseignement, évidemment, on tire de cette façon de faire de Korach qui est malveillante.
Alors c'est vrai que cette démarche de Korach, d'abord rappelons que Korach est un personnage de tout premier plan. Hein. C'est pas une crapule qui vient et qui dit « ouais, c'est pas normal, et pourquoi pas nous ?» Non, pas du tout. Korach a une véritable stature, c'est quelqu'un de grand. Et il accuse Moshe, au fond, de népotisme. C'est-à-dire c'est les membres les plus proches de votre famille à qui vous avez donné les postes. Et il argumente et il dit quelque chose qui est très vrai d'ailleurs. Il dit qu'il colle à Eda Kulam Kedoshim. Il dit « mais au fond... on est tous égaux, on a tous une dimension élevée, donc pourquoi au fond ça reste un entre vous ?» Et l'argument s'entend. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Korach, lorsqu'il amène cet argument, il le fait à travers une stratégie quand même assez curieuse. En effet, on aurait pu imaginer Korach venir et dire « Cher Abénou, c'est pas normal, pourquoi juste c'est toi qui choisis les gens les plus proches ?» Mais il réunit les gens qui sont avec lui et puis il met en place une forme de comédie assez curieuse dans laquelle il drape d'abord tous ses amis, tous ceux qui font alliance avec lui de talit, de talitot, de, je dirais aujourd'hui, de châle de prière. Un talit, c'est plus un vêtement. Et ses vêtements sont bleu azur, très laits. Et vous savez que dans la Torah, il y a marqué que lorsque l'on met un talit, quelle que soit sa couleur, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec sa couleur, eh bien, on va devoir y accrocher des tzitzit, d'accord, ces fils qui sont aux quatre coins, si c'est un habit à quatre coins, et puis, on doit normalement y accrocher un fil de trellet, un fil de bleu azur, « Uritem tous rartem » dit le verset, car en voyant ce fil de couleur bleu azur, entre autres, évidemment, eh bien, celui-ci nous renvoie à la mer, qui elle-même nous renvoie au ciel, qui elle-même nous renvoie à Dieu. Ok, très bien. Korach arrive. Et avec tous ses sbires, il dit à Moshe, dis-moi, nous avons tous ici des talits bleu azur. Penses-tu qu'il est nécessaire de mettre des tzitzites bleu azur ? Juste mettre des tzitzites blancs, mais est-ce qu'on a besoin de mettre ce fil bleu azur ? Et Moshe de lui dire, oui, en effet, il faut le mettre. Et bien sûr, Korach de cela fait de dire du n'importe quoi. Talit et bleu azur, il va amplement nous rappeler ce symbole. Pas la peine de mettre des tzitzit. Et puis après, il revient à la charge et puis il dit à Moshe avec tous ses sbires, « Dis-moi Moshe, là, nous avons une maison qui est remplie de Sefer Torah. Penses-tu qu'il soit nécessaire d'y mettre une mezouza à la porte, à l'entrée ?» Et Moshe Rabbeinu de dire, « Bien oui. » Et là, à nouveau, Korach de s'esclaffer, de rire et de dire, « Mais au fond, c'est du n'importe quoi. La paracha des mezouzot, c'est... tout petit, là on a tout un Sefer Torah dans lequel il y a toutes les parachutes. Alors évidemment qu'on n'a pas besoin de mettre une mezouza et Moshe dit non, il faut les mettre. Alors bien sûr, il y a bon nombre de lectures à voir de ce texte, mais un des éléments qui est intéressant à remarquer, c'est que Korach, au fond, qu'est-ce qu'il utilise ici comme stratégie ? Il utilise la stratégie de que l'on appelle la Leitzanout. Leitzanout, c'est la moquerie, c'est cette parole ironique, mais pas très tendre. Cette parole dans laquelle, au fond, on dit « Non, mais vous avez vu ce Moshe, mais enfin, c'est du n'importe quoi, quoi. Allez, réfléchissons. Et c'est vrai que la Leitzanout, eh bien, c'est un état d'esprit qui fait que par la suite, on n'est plus prêt à entendre une quelconque forme de remarque. D'ailleurs, le Mesilat Yesharim, un des ouvrages majeurs de la pensée juive, de l'éthique, eh bien, vous dit bien que Leitzanout Achat, une seule moquerie, un seul trait d'esprit, mais un peu péjoratif comme cela, eh bien, repousse sans parole de remontrance. Il est à l'image de ce bouclier empli d'huile qui est là pour justement faire disparaître ces flèches qui nous remettent en cause. Et c'est ça, au fond, l'arme, entre autres, que va utiliser Korach. Korach, au fond, cherche un petit peu à ridiculiser Moshe et à montrer qu'au fond, sa parole n'est peut-être pas très intelligente. C'est peut-être le chef du peuple d'Israël, mais au fond, il est peut-être un peu obtus. Hein. Il ne réfléchit pas. Les voyons, si on a compris l'esprit de la chose, a-t-on besoin d'être dans le strict respect de la loi? Et c'est à ce moment-là où, en effet, eh bien, le vent tourne et toute son équipe est autour de lui. Et vous savez, chacun se tient dans ces moments dans lesquels on se moque un petit peu de ce qui nous semble un petit peu petit, ridicule, limité, limitant, alors que nous, on a compris le concept. Et je pense qu'à ce moment-là, eh bien, Korach est rentré dans un système avec tous ceux qui sont autour de lui, dans lequel il ne pourra plus entendre une parole qui le remet en cause, parce que justement, c'est son désir de ne pas se laisser remettre en cause par une parole qui est présent maintenant dans cette démarche. Et alors, intéressant parce que Korach, il va s'allier avec, dit le texte, 250 personnages qui ne sont pas des petits personnages eux aussi, et ils vont être ensemble. Mais ensemble, et il y a ici quand même quelque chose d'assez surprenant, surtout au regard de l'actualité. Dit le texte que c'est quoi une marloquette, c'est quoi une dissension, une dispute qui est vraiment dans le bon but, c'est celle de Hillel et de Shammai, deux écoles de pensée qui somme toute s'affrontent parce qu'elles sont à la recherche de la vérité, mais qui sont très proches, qui s'aiment. Leurs enfants se marieront toujours entre eux. Et puis on dit, quoi, c'est quoi la marloquette, la dispute qui n'est pas le Shem Shamaim, qui n'est pas vraiment dans le bon but? C'est celle de Korach et de son groupe. Et nos maîtres de dire, mais c'est pas ça, c'est celle de Korach, de son groupe d'un côté et de Moïse de l'autre. Or, le texte de la Mishnah nous dit, non, c'est celle de Korach et de son groupe, parce qu'au fond, leur union est factice. Elle n'est là que parce que justement, ils veulent dévaloriser Moshe, parce qu'ils veulent qu'il disparaisse, ils veulent qu'il s'en aille. Mais au fond, dès le moment où Moshe sera parti, dès le moment où ils auront pris le pouvoir, à ce moment-là, dit le texte, ça sera entre eux la marloquette. Évidemment qu'à ce moment-là, ça sera la dispute, parce que les unions de circonstances, eh bien, au fond, ne tiennent jamais, elles sont totalement illusoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que le ciment qui les lie pour l'instant, au-delà du fait qu'ils veulent en effet chacun d'entreprendre par celle de pouvoir, c'est justement cette démarche de Leitzanout, cette démarche de moquerie, cette démarche dans laquelle, eh bien, sous le couvert d'un trait d'esprit, on dévalorise l'autre, on dévalorise surtout sa parole, et à partir de cela, on peut rester dans ses zones de confort et de certitude. Et au passage, eh bien, c'est un système au fond qui a toujours été utilisé dès lors que l'on se sent en danger par quelque chose qui peut nous interpeller, quelque chose qui peut nous bouleverser. Parce qu'au fond, qu'est-ce que Moshe va leur répondre? Moshe leur dit, mais vous savez, moi c'est ce que Dieu a dit. Au fond, si Hachem décide de changer, il changera. Il ne s'arc-broute pas au pouvoir. Quelle leçon, quel exemple. Il se serait attendu à ce que Moshe dise, mais quand même, vous n'avez pas honte, c'est Dieu qui m'a mis ici. Et Moshe dit non, c'est Boker Venoda demain. On va voir. On va voir ce qu'Hachem décidera, et si Hachem décide de changer, bien il change. Donc Moshe, au fond, à travers sa réponse, les interpelle, les bouleverse, parce qu'il leur montre bien que pour lui, le pouvoir ne représente strictement rien. C'est juste une fonction, une responsabilité qu'il a et qu'il assume. Et c'est insupportable. Donc, un personnage comme ça, lorsqu'il nous remet en cause, eh bien, il faut surtout, surtout, tout faire pour qu'à nos propres yeux, il n'ait pas d'impact, il ne représente rien. Et c'est la notion de Leitzanout. Et vous savez que cette Leitzanout, disent nos maîtres, eh bien, c'est l'élément qui fait que Enou mekabel peneshrina, disent nos maîtres, c'est-à-dire que le vrai contact avec Dieu n'existe pas. On peut être un juif pratiquant et on aura sûrement des résultats positifs liés à une pratique rituelle, mais la notion de kabbalat peneshrina, c'est-à-dire la notion de proximité avec le divin, elle n'est pas là parce que justement, on ne veut pas être dans des zones de progression. On n'a pas envie d'être dans des mouvements et dans une évolution parce que l'on refuse d'être interpellé et surtout parce que l'on fait tout pour que les autres aussi nous accompagnent dans ce chemin en les associant à cette ironie mordante, péjorative, moqueuse qui n'a comme but que donner la possibilité de rester dans nos zones, de rendre encore plus fortes nos pseudo-certitudes et quelque part comme Corar malheureusement d'aller à sa perte. C'est ce que l'on va voir puisque lorsque Hachem va bien montrer que c'est Moshe et Aaron et tous ceux qu'ils ont nommés qui doivent rester, donc ça y est, les choses sont là, eh bien Korar va camper sur ses positions, il ne lâchera rien, c'est son orgueil à ce moment-là qui émerge, avec toutes les conséquences catastrophiques que l'on peut voir. Évidemment, pour nous un bel enseignement, une leçon, et à la fois sur la nécessité de se laisser interpeller, la nécessité de tout faire pour que justement, la parole de l'autre puisse nous dire quelque chose, que ce qu'il est puisse nous remettre en cause et ne jamais être dans cette leitzanout qui nous empêche au fond d'être dans des zones de mouvement perpétuel.
Vous savez, Rav Lemel, en vous écoutant, je pensais à tout ce qu'on dit sur l'humour et encore une fois, on pourrait revenir à ce qu'ils y compris dans les journaux, quoi. Et on sort souvent la phrase de des proches qui dit on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. En vous entendant, je me suis dit non, on peut rire, dans le judaïsme on aime rire.
On doit rire.
Encore mieux, mais ça dépend pourquoi on veut rire. Et peut-être c'est ça.
Et pourquoi on fait rire. Et pourquoi on fait rire. Voilà, il y a un très très beau texte dans le Talmud qui nous rapporte l'histoire de Rabbi Broca qui se retrouve un jour, et je vous l'ai dit très rapidement, il se trouve au marché puis rencontre Eliyahu HaNavi, le prophète Élie, et lui dit, dis-moi, y a-t-il au marché des personnes qui ont droit au monde futur? Eliyahu HaNavi lui en désigne certaines. Et puis à un moment, il dit, il y a deux personnes qui arrivent, deux juifs de base, on dirait, et puis dit cela aussi. Alors Eliyahu s'approche d'eux, ils n'ont pas l'air de vénérables. Il leur dit, Maïma Saïrou, il dit, vous faites quoi dans la vie? Il dit, Anchem Duchelino, nous sommes des humoristes, mais regardez ce qu'ils disent. Lorsque nous voyons des personnes qui ont l'air tristes, lorsque nous voyons des tensions entre les individus, nous allons vers eux, nous les faisons sourire. Et le sourire qu'on crée, c'est leur permettre de poser un regard relatif sur les choses. Et nous remettons, il y a à la fois du baume au cœur de ceux qui sont tristes, et en même temps nous faisons en telle sorte que ceux qui sont en tension et en dispute, eh bien justement, se retrouvent en paix. C'est cet humour-là qui nous amène, en effet, au Olam Haba. C'est celui-là, en effet, que la Torah nous demande d'installer, parce qu'il permet aux gens de reposer un regard sur les choses, et quelque part, c'est totalement l'antithèse de cette leitzanout, à nous de savoir faire la distinction.
Voilà, c'est beau. Merci Rav Lemel. Et ce soir, peut-être à la table de Shabbat, quelqu'un dira un bon mot qui fera sourire tout le monde. Et on se souviendra de on se souviendra de votre belle dracha. Merci à vous. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shalom Aleichem.
Shabbat Shalom. On continue évidemment à réfléchir sur Korar, sur notre paracha, et vous voulez le voir sous un autre angle. Vous dites, on ne change pas d'avis comme ça. Un homme qui, ou même un processus collectif, politique, pour changer d'opinion, en fait, c'est un problème de midot, un problème de référence, de midot, comme on dit en hébreu, et ça se fait pas en un jour. On devient pas Korar en un jour. Alors, expliquez-nous.
Absolument. La paracha commence en disant « Vaikar Korar ben Yitzhar ben Kehat ». Donc, il a pris Korar, le fils de Yitzhar, fils de Kehat, ben Lévi, Vedatan Vaviran, ben Elia, ben Chelon. Donc, on nous cite les noms des personnages, mais on ne dit pas ce qu'ils ont pris. Korar a pris, mais alors, tout le monde pose la question, mais il a pris quoi exactement? Alors, Rashi dit, il s'est mis de côté. Alors, la question que tout le monde pose, Mara Korar Beshtudze, qu'est-ce que Korar a vu dans cette bêtise? Telle que la question est posée, et telle qu'elle est véhiculée, on a le sentiment, en quelque sorte, d'un homme qui, d'un seul coup, devient idiot, en quelque sorte, perd la tête. Et donc, on a l'impression de quelque chose qui est de l'ordre d'un virage brutal, inattendu, un peu comme si les proches de Korar nous avaient dit « Bon, vous savez, on n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. Hein. » Vraiment, c'est du jour au lendemain. Il s'est mis en tête de partir en guerre contre Moshe Rabbeinu, contre Moïse. Et puis voilà, d'un seul coup, Il s'est emporté. Alors donc, en fait, nos sages, ils nous disent tout à fait autre chose au sujet de Korar. Ils disent que Korar est un très grand homme. C'est un homme très riche, c'est un homme qui s'est enrichi en Égypte. Dès l'Égypte, il avait eu la possibilité de mettre la main sur un des trésors de Pharaon qui en fait avait été accumulé par Youssef Hatzadik. Et déjà, il était très riche. Et c'était un homme très ambitieux. C'était un homme qui avait beaucoup d'ambition et qui voyait large, il se voyait très très large. Alors, il était bien servi dans cette ambition, parce que, de manière tout à fait prophétique, ce qui signifie qu'il avait le roi HaKodesh, il avait l'Esprit Saint, il avait vu que parmi ses descendants, il aurait Shmuel. Alors, il faut préciser qui était Shmuel. Shmuel, nos sages nous disent qu'il avait le même poids que Aaron et Moshe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Shmuel est intervenu à une période de l'histoire du peuple juif où c'était, ce qu'on dirait trivialement, la débandade. C'est-à-dire, c'était vraiment le peuple juif au niveau spirituel avait sombré pour une part importante dans l'idolâtrie. Il y avait une instabilité qui s'est installée en Israël. Personne n'écoutait réellement les juges. Et va donc venir Shmuel, qui va aller de ville en ville enseigner la Torah et qui va complètement relever le niveau spirituel du peuple. Il y a eu un autre homme plus tard qui est Ezra, qui a fait la même chose au retour de l'exil du premier temple, et dont toutes les décisions sont décisions marquantes qu'on applique encore aujourd'hui. Donc, il a vu Korar qu'il avait quelqu'un de très très grand. Donc, Korar est quelqu'un d'intelligence, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui peut prétendre à quelque chose. Et là, nos sages viennent et disent, en fait, Korar, il était mécané, il était jaloux. Il était jaloux. Alors, d'où elle vient cette jalousie ? Et là, il y a un point qui est un point fondamental et que nos sages mettent en avant. C'est que cette jalousie qui va s'afficher contre Moshe Rabbeinu, c'est une jalousie qui est née dans la grandeur de Korar. C'est-à-dire que Korar, il a de quoi être jaloux. Il a de quoi vouloir, il a de quoi espérer, il a de quoi précisément être pensé qu'il va être celui qui va diriger. Seulement voilà, Korar va oublier un point. Et ce point, il est tout à fait fondamental. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est la jalousie. En fait, c'est quoi la jalousie ? La jalousie, c'est une espèce d'aptitude à la grandeur, mais dévoyée. Vous voyez, par exemple, deux hommes d'affaires qui se comparent à, je sais pas, à Bill Gates, par exemple, bon, ils vont pas être jaloux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un standard au niveau de leurs affaires qui est un standard A. Bill Gates, il a un standard Z, donc il est très très loin d'eux, ils vont pas être jaloux. Mais par contre, s'ils sont amis et que d'un seul coup, l'un réussit plus que l'autre, alors là, ils vont être jaloux. Pourquoi ? Parce qu'au point de départ, ils sont sur la même ligne. Et en fait, Korar, il est sur la même ligne de départ que, en quelque sorte, que les grands du peuple juif. Et donc, il a cette ambition en lui. Il a cette aptitude à la grandeur. Mais la jalousie, c'est en fait une aptitude à la grandeur qui est dévoyée, c'est-à-dire quelque chose qui est utilisé au service de l'ego. Et où se casse la brisure ? Où se passe la brisure ? La brisure se passe au moment où cette personne qui a des ambitions doit comprendre que le peuple juif est une réalité spirituelle, ce n'est pas une réalité politique, et que si Moshe Rabbeinu est là où il est, c'est parce qu'Hachem l'a voulu. C'est qu'il va devoir intégrer le fait qu'il y a un Boré Olam, il y a un créateur du monde, il y a un animateur dans le monde, il y a un patron, et ce patron peut décider qui monte et qui descend. Il va devoir accepter qu'il y a une limite à ses ambitions, il y a une limite à sa volonté. Cette volonté, c'est finalement que Hachem, à un moment donné, peut dire non. Et alors, ça va très très loin, parce que dans le peuple juif, cette notion de verticalité, elle est fondamentale. Il y a toujours eu beaucoup de gdolim, de grands dans le peuple juif. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un parmi eux se distinguait ? Parce que les gdolim qui étaient autour de lui s'annulaient devant lui. C'est tout à fait fondamental, cette notion d'annulation. Le pendant positif de la grandeur intellectuelle, morale, spirituelle, humaine, c'est la capacité de s'annuler devant quelqu'un dont on sent qu'il a une kedusha, une sainteté, ou tout simplement des forces intellectuelles, des forces humaines qui sont supérieures aux nôtres. Et dans Am Israël, cette notion de verticalité, dans les peuples juifs, cette notion de verticalité, elle est fondamentale. Le Ramban, Nachmanide, dans sa lettre qui nous invite chacun à réfléchir sur la modestie, dit « Le seul regard que tu peux avoir sur l'autre, c'est un regard de verticalité. Ou tu penses que cette personne est plus racham que toi, ou même plus riche que toi, et tu dois la respecter, ou tu penses que cette personne est moins racham, moins sage et moins riche que toi, et dans ce cas-là, tu dois penser qu'elle est moins intentionnelle dans ses fautes que toi, et donc qu'elle est meilleure que toi dans son caractère. » C'est-à-dire que le Rabban vient et nous dit, ça n'existe pas l'horizontalité dans le peuple juif. Ce que Korar va dire avec beaucoup de démagogie, « Kol ha'eda kulam kedoshim », tout le monde est saint, on est tous les mêmes. Pas du tout. Dans le peuple juif, les gens sont très différents. Il y a des gens qui sont plus élevés, des gens qui sont moins élevés. Il y a des gens qui sont plus forts, des gens qui sont moins forts, des gens plus intelligents, des moins intelligents, des gens plus saints, des gens moins saints. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que celui qui a réussi dans sa avodat Hashem, par exemple, dans son service divin, il mérite mon estime. Et donc la relation que j'ai, c'est une relation de verticalité. Soit je pense que cette personne est plus grande, soit je pense que cette personne est moi, mais dans ce cas-là, je dois penser qu'elle faute moins que moi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle est plus grande que moi. Et ça, c'est une dimension qui va totalement échapper à Corard, qui va l'amener, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, qui va l'amener finalement à être coffert by Icar, finalement à nier même cette notion de révélation divine à Moshe Rabbeinu, etc., etc. Mais la racine de ça, c'est dans sa grandeur, mais dans une grandeur qu'il ne va pas chercher à travailler dans le sens de l'annulation. Et alors, vous savez, c'est très intéressant parce que vous avez deux femmes qui interviennent dans la paracha, la femme de Korach et la femme de Hon ben Pelet. Hon ben Pelet, lui, va être sauvé par sa femme. Par contre, Korach, il ne va pas être sauvé par sa femme. Or, ces deux femmes, c'est intéressant parce qu'elles s'adressent à l'ego de leur mari. La femme de Korach, elle lui dit « Mais Moshe Rabbeinu, il s'est moqué de toi, il t'a plumé comme un poulet, et regarde, il t'a ridiculisé. » Elle s'adresse à son ego. La femme de Hon ben Pelet aussi va s'adresser à son ego. Elle va lui dire « Mais dis-moi, toi, tu seras toujours un numéro 2. Si Korach gagne, tu resteras l'élève de Korach. Et si Moshe Rabbeinu gagne, tu resteras l'élève de Moshe Rabbeinu. » Elle s'adresse à son ego. Mais pourquoi la femme de Hon ben Pelet va réussir et la femme de Korach va complètement dévoyer son mari et donc va l'entraîner et va disparaître avec lui? Parce que la femme de Korach, elle est avec son mari dans cette espèce d'égotisme maladif dans lequel finalement elle oublie complètement cette notion de verticalité. Par contre, la femme de Hon ben Pelet, elle lui dit « Tu es très fort, tu es un homme très fort, tu fais partie des grands dirigeants du peuple juif, mais il y a des gens qui sont au-dessus de toi et il faut que tu te rappelles qu'il y a dans toutes les relations une verticalité. » Et c'est fondamental parce que c'est ça le socle de la hanava, de la modestie. C'est ça qui fait que dans un Beit HaMidrash, des gens peuvent étudier la Torah et se respecter. Ils peuvent voir la grandeur de chacun. C'est finalement cette capacité qu'on a à voir finalement la grandeur chez chacun qui fait qu'on va, on va souhaiter sa réussite. On va avoir un intova, on va avoir un bon regard sur lui. On va vouloir que cette personne réussisse. Et là, c'est ce qui, finalement, c'est ce qui a manqué à Korach et c'est ce qu'il a perdu. Et il a fallu pour ça un processus qui part du moment où il s'enrichit pendant la sortie d'Égypte jusqu'au moment de la Machloket Korach, c'est-à-dire deux ans plus tard. Finalement, ça aura pris ce temps-là pour que cet homme-là, finalement, se rende compte qu'il n'avait finalement aucun respect pour personne et pour qui que ce soit. Et je pense que ça, c'est un enseignement majeur parce que partout où a régné le respect vis-à-vis de l'autre et notamment le respect de l'intelligence de l'autre, de la sainteté de l'autre, de l'effort personnel de l'autre, a régné l'unité. Donc, nos sages nous disent, par exemple, que Shammai et Hillel, ils avaient un vrai respect l'un pour l'autre. Et quand il se citait, Hillel a cité Shammai toujours devant lui. D'accord, c'était les sages d'Israël, ce sont des gens qui respectent ça. Ils ont toujours cette force d'annulation comme ça devant l'autre. J'ai une très très belle histoire sur le site de Dirshu où on rapporte que Rav Ovadia Youssef, une fois, a reçu un couple, on va terminer sur ça, qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et Rav Ovadia Youssef a dit « Allez chez Chacham Shalom Cohen, lui, il a une bouche sainte et tout ce qu'il dit, ça se réalise. » Et là, l'histoire raconte que finalement, ce couple a fini par avoir des enfants et qu'il y a eu plusieurs allers-retours entre ces deux grands gdolim. Racham Shalom Cohen disant « Mais Rav Ovadia, il peut vous bénir. » Et Rav Ovadia disant « Non, c'est lui qui peut vous bénir. » C'est absolument extraordinaire de voir ces deux géants qui finalement s'annulent l'un devant l'autre. Et c'est ça la vraie grandeur des vrais leaders du peuple juif, c'est la capacité de s'annuler l'un devant l'autre. Voilà, Shabbat Shalom à nous tous, Bezrat Hashem, qu'on apprenne de cette parachala à s'aimer réellement et à aimer réellement la force que l'on peut voir chez chacun d'entre nous.
Eh bien, on va essayer déjà de se nourrir de vos enseignements, Rav Mordechai Biton, de ne pas oublier cette idée que de verticalité, j'ai bien compris, dans ce monde où on nous dit que tout est pareil, alors après ça va jusqu'au... ça s'arrête plus. Ça commence déjà par Google, on peut tomber sur le plus beau texte biblique, le plus beau psaume, même la plus belle poésie, et avec une égale importance... On va voir une photo d'un chien, d'un homme qui assassine un autre homme. C'est tout pareil. C'est Google. Il n'y a plus de verticalité, c'est-à-dire d'échelle des valeurs. En fait, on pourrait appeler ça comme ça.
Alors, au moins, Korach disait Kol Haeda Kulam Kedoshim. Ils sont tous saints, là, dans cette communauté, Kulam Tmeim. Tout le monde devient Tamé. Tout le monde devient impur. Malheureusement.
Allez, on regarde les vidéos et vraiment, tout à l'égout. Merci, Rav Mordechai Biton, pour ces belles paroles. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Ayasha. On continue notre réflexion sur notre paracha de la semaine avec Korar. Et alors, vous avez envie de dire quelque chose de bien particulier. Quand on se dispute avec quelqu'un, on se fait d'abord du mal à soi-même. La première personne qui est visée, c'est nous. Par nous-mêmes.
Voilà. Exactement.
C'est ça.
Un grand paradoxe de la psyché humaine. Tout à fait, ouais. Bah écoutez, oui, on est dans cette paracha qu'on aborde avec tristesse, hein, en ce tout début du mois de Tammuz, qui est un mois difficile pour le peuple d'Israël, et qui nous rappelle que ben, depuis la nuit des temps, les problèmes sont les mêmes problèmes. Vous savez, souvent quand on lit dans la Torah, enfin moi j'essaye beaucoup, beaucoup quand j'enseigne la paracha de l'actualiser. Et quand j'arrive à Korach, je n'ai pas besoin de l'actualiser. Elle est toujours actuelle. C'est-à-dire que la forme que prend cette dispute entre Korach, qui, je le rappelle, est le cousin germain de Moshe, et qui est terriblement jaloux du siège à la Knesset qu'a donné Moshe à son frère, à Aaron, et qu'il a donné à son autre cousin, Elitsaphan, et lui, ben, il aimerait tellement bien siéger. C'est tellement d'actualité, c'est impressionnant d'actualité. Et il en vient à monter tout un groupe de militants qui vont sortir contre Moshe. Je vous assure, à chaque fois que je relis ce passage dans la Torah, je me dis, mais comment hostile ? Enfin, qu'aujourd'hui, évidemment, malheureusement, on le voit autour de nous, qu'il y a des groupes qui se montent les uns contre les autres, c'est tellement triste, mais on le voit dans la Torah et on le voit face à Moshe. Et alors, il y a une lecture très audacieuse de ce passage, que j'ai lu chez le Rav Avigès, qui dit la chose suivante. Il dit, et finalement, quand quelqu'un part en guerre de toutes ses forces, bien sûr, la mauvaise marloquette, hein, parce qu'il faut savoir que la Torah est créée par des bonnes marloquettes, par des bonnes controverses, celles dans lesquelles on ne veut pas sortir gagnant, celles dans lesquelles on veut que la vérité sorte gagnante. Mais quand on veut absolument sortir gagnant d'une dispute, c'est vraiment le signe qu'on n'est pas dans une bonne dispute, qu'on est dans une mauvaise dispute. Et le premier, finalement, qui va devoir subir cette dispute, eh bien, c'est l'individu lui-même. Alors, pourquoi ? Il y a une lecture midrashique très audacieuse qui met en lien un autre verset dans la Torah qui n'a apparemment rien à voir avec celui-ci, qui est beaucoup plus loin dans le cinquième livre de la Torah, et qui parle de l'interdit de se scarifier la peau, de se taillader le corps. Alors, je vous lis ce verset qui commence par les termes « Bani matem la Hachem elokechem » « Sachez que vous êtes les enfants d'Hachem » sous-entendu, eh bien, il va vous arriver des moments d'épreuve, mais je suis là, parce qu'on peut toujours demander à papa de venir en aide. Et la suite du verset, c'est l'otit godedou, qui signifie au sens premier, ne vous tailladez pas le corps, velotassimu korra ben enechem, et ne vous rasez pas la tête entre les yeux quand il y aura un mort. Alors, de quoi il s'agit ? Au sens premier, il s'agit d'une habitude qui existe depuis la nuit des temps. Quand il y a une souffrance, je vais dire, d'ordre émotionnel, affectif, voilà, un deuil, eh bien, de vouloir matérialiser ce deuil sur le corps. Que le corps puisse exprimer également sa souffrance, parce que la souffrance du corps est beaucoup plus visible immédiatement que la souffrance de l'esprit. Et donc, il y a ce désir qui est absolument interdit par la Torah de matérialiser la souffrance. Eh bien, c'est complètement interdit. Et là, la lecture midrashique audacieuse, comme je vous disais, c'est de dire ben, le mot korcha, c'est korach. Et juste à côté, il y a le mot titgodedou, qui veut dire se taillader, se scarifier, mais qui peut aussi vouloir dire de faire des agudot agudot, c'est-à-dire de faire des factions, de faire des groupements qui se liguent les uns contre les autres. Alors du coup, comme dans ce verset, il y a deux allusions à Korach, une avec le mot Korach, écrit littéralement, et l'autre avec ce regroupement pour créer un litige, eh bien, le midrash, la lecture interprétative, va dire que finalement, quand Korach sort comme ça, de façon militante, contre Moshe pour remettre en question les rôles et les fonctions des uns et des autres, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de se taillader le corps, il est en train de se faire mal, il est en train de se faire souffrir. Alors, c'est intéressant. Pourquoi y a-t-il cette force d'autodestruction à l'intérieur de nous ? En fait, ici, on est en train de dire que quand quelqu'un se dispute terriblement avec son conjoint, avec son frère, avec sa sœur, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui n'est pas harmonieux. Il y a sa place, son rôle, son talent, sa mission dans la vie n'a pas encore été définie. Et on est en train d'essayer, la personne est en train d'essayer peut-être de porter un costume qui n'est pas le sien ou de remettre en question le costume de l'autre. Et donc, finalement, la personne qui se dispute avec l'autre, elle a d'abord un problème avec elle-même. Elle a d'abord un problème avec sa propre réalisation dans la vie. Et c'est exactement ce que l'on voit quand on lit un peu l'interprétation du Rav Moshe Friedman sur Korach. Lui, il va aller chercher dans les mondes mystiques à comprendre comment Korach en vient se révolter contre son cousin qui n'est autre que le grand Moshe, le grand prophète Moïse. Il dit que finalement, dans le monde, il y a deux grands groupes, je dirais, de Neshamot qui arrivent sur Terre. Il y a les Neshamot dites de type Caïn et les Neshamot dites de type Hevel. Alors, on se souvient, hein, la première dispute du livre de Torah, elle date à quand il y a la première fratrie qui arrive, c'est Caïn et Hevel, et elle se termine très mal. Elle se termine avec un fratricide, avec le meurtre de Hevel. Caïn est jaloux de lui parce que l'offrande d'Hevel a été agréée, la sienne n'a pas été agréée. Et finalement, le problème de Caïn, c'est un problème de jalousie qui se trouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de Neshamot qui sont là et qui ont du mal avec la réussite des autres ou avec leur insatisfaction. Des fois, ce n'est pas forcément la réussite des autres, mais c'est l'insatisfaction majeure qu'ils ont dans leur vie. Une vie qui n'est pas accomplie, une vie dans laquelle ils n'arrivent pas à définir clairement qui ils sont, quel est leur rôle, quelle est leur mission sur Terre. Et ce qui va se passer pour Caïn, qui est ce jaloux-là, ce premier jaloux, eh bien, il va, dit Dieu, être navenade, il va être errant et fugitif sur terre. Alors, c'est exactement ce qui se passe quand on a un problème avec la jalousie qui nous grignote à l'intérieur. Cette sœur, cette belle-sœur, cette collègue que j'aimerais tellement vivre sa vie, j'aimerais tellement être à sa place, et ça nous grignote, et comme on l'a dit, c'est de l'auto-sabotage finalement. Et on est errant et fugitif, c'est-à-dire qu'on est en permanence en train de chercher une place où se poser. Et aucune place ne nous convient. On cherche, on va à droite, on va à gauche. Alors, si je devais prendre l'exemple un peu banal des célibataires, c'est j'essaye cette fille, j'essaye de le dire comme ça, platement du côté masculin, mais c'est parce que je le vois trop souvent je cherche telle relation et telle autre relation. Non, mais il y a mieux ailleurs. Ah non, mais je vais pouvoir trouver mieux que ça. Et donc, cette difficulté à se poser dans un endroit, à trouver son makom. Le makom en hébreu vient du mot mekayem, ce qui me fait exister. J'ai besoin d'un makom, j'ai besoin d'un lieu, d'épanouissement. Et il va y avoir cette errance dans la vie, cette errance terrible. Et quand est-ce que cette errance se termine? C'est ça qui est très intéressant et qui va nous apporter peut-être une solution au problème de la jalousie. Eh bien, quand Caïn dit à Dieu « Je voudrais absolument trouver du repos », eh bien, Dieu lui dit, pas de problème, symboliquement, l'idée qui est dite ici, c'est « je vais écrire une des lettres de mon nom sur ton front ». Et le Midrash dit que cette lettre, c'est la lettre Vav. Alors, le Harizal qui va jusqu'à dire que Korach n'est autre qu'une réincarnation de Caïn le premier jaloux de l'univers, eh bien, il va voir Caïn pour mettre une pause à cette errance et à cette recherche de place dans la vie, la lettre Vav du nom de Dieu. Et cette lettre Vav, c'est très intéressant, dans le nom de Dieu, les deux premières lettres parlent des mondes supérieurs, et les deux suivantes, le Vav et le He, signifient le monde dans lequel nous sommes, le monde du concret, de l'ici et du maintenant. Et le Vav, c'est justement cette lettre-là qui est verticale, qui va de haut en bas, c'est ce conduit d'abondance qui part des cieux et qui vient nous alimenter de tout ce dont on a besoin pour vivre, attention, sa propre vie, pas celle des autres. Eh bien, si Caïn a ce Vav sur son front, eh bien, c'est pour lui dire, voilà, connecte-toi à ton Vav, à ton conduit qui de haut en bas, il existe au-dessus du front de chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, un conduit qui nous alimente de tout ce dont on a besoin. Et d'après une autre explication, le Vav qui est écrit sur le front de Caïn, en fait, c'est le Shabbat. C'est-à-dire que toute la semaine, il est fugitif, il est errant, et Shabbat, cette pause. Mais c'est la même idée. C'est l'idée qu'à un moment, je vais arrêter de courir derrière une vie que je pourrais vivre pour vivre ce que j'ai, pour vivre ce que Dieu m'a donné. Et c'est ça peut-être la plus belle explication de la Mishnah qu'on connaît très bien tous dans Avot. Le texte de Avot nous pousse vers un bonheur, un réel bonheur profond. Et le Tana écrit « Ezehu Ashir, qui est l'homme riche ?» Vous vous souvenez que, enfin, c'est écrit que Korach était un homme immensément riche. Mais il aurait pu devenir le plus grand philanthrope au monde. Il aurait pu sortir le monde de la misère. Mais ce qu'il voulait, c'est ce qu'il n'avait pas. Il voulait la Kehuna. Il voulait un rôle de Nassi. Il voulait un rôle qui ne lui était pas assigné parce qu'il ne correspondait pas à sa mission sur Terre. Eh bien, la Mishnah dans Avot dit « Vous voulez savoir qui est vraiment l'homme riche ?» Hasameach Bechelko. Celui qui est satisfait de sa part. C'est déjà celui qui comprend qu'il a une part dans le monde et que cette part ne pourra pas être jouée par qui que ce soit d'autre. Sa part, j'ai presque envie de dire, c'est sa partition. Quand on a un orchestre, eh bien, il faut que le violon joue la partition du violon et que le piano joue la partition du piano. Et si j'essaye de jouer la partition de l'autre, ça va être une cacophonie terrible. Et donc, Chelko, c'est sa part. Et Raf Friedman dit, on peut aussi lire Chelko, Chelek Vav. Qu'il soit satisfait de la part de son vav, de son conduit qui vient de haut vers le bas, et qu'il alimente afin qu'il puisse vivre sa vie à lui, pas la vie de quelqu'un d'autre. Alors je termine en vous rappelant que Korach, les lettres Korach, c'est les mêmes lettres que Rachok, qui veut dire loin. Il est loin de lui-même, il est loin de ce qu'il est, il est loin de sa part, et cet espace-là, cet espace entre ce qu'il est et ce qu'il aimerait être, eh bien, crée un espace entre lui et les autres. Alors peut-être qu'une petite solution pour passer un beau Shabbat plein de shalom, plein de paix, eh bien, être un peu plus connecté à la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'on a et à ne pas essayer ni de se transformer, ni d'essayer de transformer ceux qui sont autour de nous et d'être un petit peu plus connecté à notre part.
Vous savez, Maréchal, un copain à moi, bon, il n'a pas votre érudition, il est comme moi, il est journaliste, il s'appelle Yves Azerwal. Et dans son dernier livre, il cite il fait une citation. « Si tu veux te venger, prépare deux cercueils, parce qu'il y aura deux victimes. » Pas parce que celui de qui tu veux te venger va, enfin bon, pourtant c'est un roman, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, va te faire du mal. Parce que tu vas faire du mal. Si tu rentres dans la logique de la vengeance, tu vas te faire du mal. Tu en feras peut-être à lui d'ailleurs. Mais tu vas t'en faire. Et je trouve...
Magnifique. Alors, ce que vous dites, ça me fait penser à cette phrase extraordinaire que j'ai lue à Sarcelles, dans une place qui a été érigée en l'honneur du Rav Israël de Sarcelles, où il y a écrit « Pour se disputer, il faut être deux, et sachez que je ne serai jamais le deuxième. »
Oh. C'est lui qui disait ça ?
Non seulement le premier, mais il ne sera jamais le deuxième. Si quelqu'un cherche l'embrouille, moi, je ne serai pas le deuxième. J'ai trouvé cette phrase fabuleuse.
Ouais. Et elle illustre tellement bien ce que vous venez de nous dire. Maria Chadré, merci.
Merci. Alors que ce Shabbat soit particulièrement plein de shalom. Parce que vous savez, quand on est dans la paracha de Korach, il y a des énergies dans le monde, il y a des énergies de dispute. Alors sachez les éviter encore plus ce Shabbat-là et qu'on sache vraiment fabriquer le shalom les uns avec les autres.
Allez, et on se donne un défi, comme on aime bien faire, vous et moi, Maria Chadré. Ça fait quelques années maintenant qu'on a... Le privilège de vous entendre et de faire cette émission. Celui qui se dit là maintenant, qui en vient de nous écouter, tiens, après l'émission, je vais donner un coup de fil à quelqu'un à qui je ne l'aurais peut-être pas donné, bah, qu'il le fasse. Voilà.
Magnifique.
D'accord ? Challenge ? Allez. On prend le challenge. Maria Chadré, merci. Shabbat Shalom à vous.
À bientôt.
Bonsoir.
À la semaine prochaine.
Bonjour à tous, on s'entreprend notre chronique, une histoire pour Shabbat. Imaginez un roi où tous les jours, il a divers sujets qui viennent le voir successivement pour lui louer toutes ses qualités et toutes les bontés qu'il fait. Dans ce cas-là, le premier serviteur viendrait le matin en disant « Roi, tu es extraordinaire, tu es beau, tu es intelligent, tu t'occupes bien de tes serviteurs. » Le second viendrait juste après en lui disant « Roi, Tu es beau, tu es intelligent, tu es plein de bonté, tu t'occupes bien de tes serviteurs. Le troisième arriverait successivement en disant « Roi, tu es beau, tu es intelligent, tu es plein de bonté et tu fais attention à tous tes serviteurs. » Chacun dirait la même chose. Quel serait le ressenti du roi ? Il en aurait marre, tout naturellement. Parce que sans arrêt, il entend la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'il va rechercher, le roi ? Il voudrait un discours différent de chaque personne. Chaque serviteur dise ce qu'il pense réellement avec son cœur pour avoir un discours particulier. Et on voit qu'en réalité, nous, tous les jours, lorsqu'on fait la prière, on dit toujours et trois fois par jour la même chose et tous ensemble la même chose. Parce qu'on a la même prière, tous, on fait tous la même Amida. Donc on se dit quoi ? On n'est pas en train un petit peu de... Dieu, il va pas saturer d'entendre toujours la même chose, comme un roi normal ? Et ben non. Parce que justement, on apprend dans la paracha de la semaine, la paracha de Korach, que chaque juif est aussi important aux yeux de Hachem qu'un Kohen Gadol qui sert dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Le Kohen Gadol qui est le grand prêtre. On voit que chaque juif est aussi important que le grand prêtre. Et justement, on a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit « Si je ne suis pas moi, alors qui le sera pour moi ?» Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire « Si je ne suis pas moi-même, et si je n'agis pas comme moi-même, alors qui le fera pour moi ?» Quels sont ça ? On ne comprend pas. C'est qu'en réalité, chaque personne est unique. Et chaque personne a une façon, avec sa situation, avec sa vie, avec ses ressentis, avec ses pensées, de servir à Kadosh Baruch Hu d'une manière différente. Et c'est là où on comprend le Pirkei Avot. Parce que le Pirkei Avot, il nous dit, si moi, je ne vais pas servir dans mon à Dieu avec mon entièreté, avec qui je suis réellement, avec ce que je pense, avec ce que je suis, et avec mon ressenti, mon kécher, mon lien vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, alors qui le fera pour moi ? Et si je ne fais pas comme moi je le ressens vraiment et que j'imite quelqu'un d'autre, bah là, ma prière va être comme celle du gars d'à côté, et il n'y a pas de réel intérêt, entre guillemets bien entendu, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, vu qu'il entend deux fois la même chose. Mais c'est de là qu'on voit que chaque juif est unique. Et même si on dit les mêmes mots, ce qu'on ressent et comment on parle à Kadosh Baruch Hu, c'est de manière différente et unique. C'est pour ça que chaque prière de chaque juif, qu'il soit éloigné, proche de Dieu, peu importe, elle est extrêmement importante pour lui. Shabbat shalom à tous.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari yid, shalom shokat shoy mer.